Voilà, ce matin, je vous apporterai, je vais dire, une méditation qui nous rappelle comment, j'aurais presque envie de dire, a été instituée la Pâque pour la première fois. Alors hier soir, on est allé au bar, on a rencontré nos amis là, qui nous font la joie d'être avec nous. Et quand je suis arrivé dans le bar, il y a une télé, j'ai regardé la télé et passé le film Moïse, la sortie d'Égypte. Alors j'ai dit vraiment là, c'était conduit, parce qu'aujourd'hui c'est Pâques, Pâques, ben justement son origine, c'est une origine qui a bien des centaines d'années, puisque c'est le jour où Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, où son peuple était là, dans l'esclavage. Le peuple est resté 400 ans dans l'esclavage, je dirais, c'est plutôt long. Ils pouvaient désespérer à se demander, est-ce qu'on est vraiment le peuple de Dieu alors qu'on est là en Égypte, esclaves, on a des corvées difficiles. Et on sait à un moment donné que le Pharaon, donc, qui était le roi d'Égypte, considéré quasiment comme un dieu, avait mené la vie très dure à ce peuple. Et la Bible nous dit que ce peuple a crié vers Dieu et que Dieu a entendu son cri et il est venu pour le libérer. Je vous rappelle qu'au départ, c'est Dieu qui avait quand même amené ce peuple quand il y avait 70 personnes. Il avait mené en Égypte pour qu'ils ne périssent pas, parce qu'au moment-là, il y avait une famine. Seulement, le peuple s'est multiplié et je pense qu'il commençait à faire aussi un peu peur à Pharaon. Pour délivrer son peuple, Dieu va intervenir et on connaît les 10 plaies d'Égypte. Des plaies qui vont atteindre le peuple égyptien, mais en partie aussi le peuple d'Israël. Et à un moment donné, Dieu va faire une séparation entre le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël. C'est-à-dire que des plaies vont tomber sur l'Égypte, mais ne toucheront plus le peuple d'Israël. Et là, le peuple va comprendre vraiment qu'il est mis à part par son Dieu. Et dans la Bible, quand on dit être mis à part, ça veut dire qu'on est saint. On est séparé du mal, on est mis à part pour Dieu. Et la 10e plaie qui va être la plus dure pour le peuple égyptien, Dieu va faire mourir tous les premiers-nés des familles, des animaux et tout. Ça va être quelque chose de très dur, mais dans l'endroit où habitait le peuple d'Israël, rien va se passer. Le peuple va même être dans la paix. Il est même dit que même les animaux, tout le monde va rester tranquille alors que la terreur est tombée sur le peuple d'Égypte. Même le premier-né du grand Pharaon va mourir. Et là, il va voir vraiment la main de Dieu et il va laisser sortir le peuple. Et un petit peu avant de sortir, Dieu va donner des consignes à Moïse où ils vont instituer la Pâque. Et j'aimerais vous lire juste une dizaine de phrases. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, donc son frère, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez votre ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Le peuple après va prendre le sang de cet agneau et va passer sur les montants et les linteaux des portes. Et quand l'ange de l'Éternel va passer pour tuer les premiers-nés, il va passer au-dessus de ce sang. Et c'est ça la Pâque, c'est passer au-dessus. Ils vont être protégés par ce sang qu'ils auront mis sur les linteaux et sur les poteaux. un peuple qui aura après la certitude, oui, nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a vraiment mis à part. Et ce peuple était le peuple de Dieu, une lumière pour toutes les nations. Il peut avoir après ça la certitude d'être aimé d'un amour inconditionnel par son Dieu. Mais ça va être, en même temps, cette sortie, le début d'un pèlerinage. Hein, il va y avoir la sortie qui va se passer apparemment dans la nuit. Ils vont même dépouiller les Égyptiens qui vont leur donner de l'or et tout pour qu'ils partent le plus vite possible. Mais après, c'est un long pèlerinage. On sait qu'il y aura la traversée de la mer Rouge, mais pour arriver où? Pour arriver dans le désert. Et le peuple va tourner, parce que ce n'est pas un peuple qui va forcément avoir l'obéissance non plus facile, va tourner pendant 40 années dans le désert. 40 années, c'est long, c'est toute une génération, et toute une génération va mourir dans ce désert. Mais ils vont apprendre des leçons dans ce désert, ils vont apprendre à se dépouiller pour arriver à comprendre que Dieu seul est utile à leur vie. Il faut avoir Dieu au centre de la vie. Le reste, finalement, c'est secondaire. Et ce peuple qui est appelé à marcher dans l'obéissance, dans l'observation des commandements de Dieu, il aura du mal, mais à la fin, c'est un peuple qui va sortir grandi. Le chemin sera long avant d'arriver au pays de Canaan, parce que 40 années à tourner dans le désert, à monter les tentes et tout ça, et quand Dieu disait d'aller plus loin, d'aller plus loin, de démonter, de refaire le trajet, c'était pas aussi évident que ça. Et quand ils vont arriver dans un pays que Dieu leur a promis, un pays que la Bible appelle le pays de Canaan, eh bien le pays ne va pas leur tomber dessus comme ça. D'un côté, Dieu va dire, je vous donne ce pays, mais d'un autre côté, il va falloir conquérir ce pays. Et ils vont devoir livrer beaucoup de batailles pour avoir ce pays. Aujourd'hui, ils l'ont encore, peut-être assez réduit, mais en tout cas, ça ne va pas être toujours évident. Mais tant que le peuple marchera dans l'obéissance envers Dieu, tant que le peuple servira l'Éternel, il sera un peuple vraiment béni. Pour nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de sacrifier d'agneau pour être sous la protection de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu. Et il est venu aussi pour nous libérer de l'esclavage. On n'est pas esclave dans un pays, mais on est esclave de nos péchés. On est esclaves de nos passions. Alors certains pensent parfois que mais le péché c'est vieux, ça c'était bon au Moyen-Âge. Mais franchement, parmi nous, qui est-ce qui a jamais peut dire qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais volé, qu'il n'a jamais été médisant, qu'il n'a jamais commis d'adultère, jamais tué, tout ça. Ah oui, on pourrait dire certaines choses, j'ai pas fait tout, mais on a quand même pas mal de choses qu'on a fait. Et quand il y a des péchés comme ça, des passions qui nous lient, et qu'on veut vraiment s'en libérer, c'est là qu'on se rend compte qu'on est esclave, parce que c'est vraiment difficile. C'était le mime de la chaise. Eh bien, les gens peuvent peut-être nous donner des conseils et des solutions, mais on n'arrive pas à se séparer de cette chaîne qui nous lie avec le péché, avec le mal. Et on est tous conscients, on le sait quand on fait du mal. Hein? Moi, je donne des fois l'exemple qui fait un peu sourire, parfois les gens, mais qui est tellement vrai. Mais moi, j'imagine le patron dans une grande boîte, hein, qui a un certain pouvoir et qui va coucher avec sa secrétaire, je l'imagine mal arriver le soir à sa maison en disant « Ah, chérie, aujourd'hui, j'ai couché avec ta secrétaire, c'était vraiment formidable. » À mon avis, il est vraiment conscient qu'il a fait du mal. Il va être obligé de mentir à sa femme, il vient de la trahir, de briser l'alliance du mariage. En fait, quand on commet un péché, surtout quand le péché est assez grave, ça entraîne d'autres péchés. Il y a une sorte d'engrenage comme ça, et on est lié, on tombe dans une spirale, et c'est pas évident. Et ce péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. On ne peut pas avoir de communion avec Dieu parce que Dieu est saint, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas de mal en lui. Et pour que nous puissions être réconciliés avec lui, alors Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché, mais aussi pour nous accorder le pardon, pour que nous n'ayons plus ce sentiment de culpabilité, pour qu'on n'ait pas peur de s'approcher de Dieu, qu'on arrête de se cacher derrière des excuses, derrière des raisonnements faux. Maintenant que Jésus est venu, qu'il a pris notre place sur la croix, la Bible dit que la punition que nous méritions, le châtiment que l'on méritait, est tombé sur lui lorsqu'il a été crucifié sur cette croix. Mais la Bible dit aussi que sur cette croix, Dieu était en lui et il était en train de réconcilier le monde avec lui-même. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse la liberté de le suivre ou de ne pas le suivre. Il y a un passage dans l'Ancien Testament où Dieu parle au peuple et lui dit « Je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » J'ai envie de vous demander sur quel chemin vous êtes en train de marcher. Mais d'accepter qu'on est pécheur, de demander pardon à Dieu, c'est une chose extraordinaire. C'est ce que la Bible appelle une conversion. C'est le jour où je me rends compte que ma vie ne vaut rien, elle n'a pas de sens. Je suis en train de marcher vers la perdition et là je m'arrête et je me tourne vers la croix de Jésus-Christ pour plier le genou, demander pardon, être réconcilié avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous pourraient témoigner que c'est le commencement d'une nouvelle vie. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête le jour où je me suis tourné vers Jésus. C'est un peu comme le peuple d'Israël, c'est une sorte de pèlerinage. La Bible dit que lorsqu'on appartient à Jésus, et donc on s'appelle chrétien, que sur cette terre nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes en pèlerinage, parce que notre cité elle est dans le ciel, notre cité elle est céleste. Et on n'a pas simplement la vie transformée pour avoir une meilleure vie sur cette terre, mais on reçoit vraiment le don de la vie éternelle. Est-ce que vous avez tous l'assurance d'avoir la vie éternelle? Les chemins dans la vie chrétienne, eh bien, nulle part dans les évangiles, il est dit que ça sera un chemin facile. On le sait. C'est un chemin chaotique. Quelqu'un m'a envoyé un truc sur Facebook. Alors, c'est un petit bonhomme et puis il y a une grande ligne droite. C'est marqué, ça c'est ta volonté. Hein, un chemin bien tracé sur lequel je sais que je vais marcher, tranquille peinard, tranquille Émile et tout le valeur. Il y en a un en dessous, c'est un chemin, c'est fait comme ça, vous voyez, avec des tempêtes, avec des moments de soleil, avec des ciels gris, des ciels bleus. Et ça, il dit, c'est la volonté de Dieu. C'est des chemins comme ça qu'on emprunte. Mais ce qui est formidable, c'est que Jésus nous a promis sa présence chaque jour et qu'il ne nous abandonne jamais. Et quand on est chrétien, on peut, au cœur de l'épreuve, trouver de la joie, garder un sentiment de paix, parce qu'on sait qu'on n'est pas abandonné. Oui, le chemin n'est pas facile de toujours suivre Jésus, mais déjà il nous assure de sa présence et on sait vers où on marche. On connaît le but de notre vie. Notre vie a un sens. Et même si on passe des moments difficiles, la vie ne s'arrête pas dans ce moment difficile. Mais même dans ce moment difficile, Jésus est présent. Et on peut lever les yeux et dire, ma cité à moi, elle est là-haut. Il y a une place qui m'attend. Et c'est ce qu'on appelle d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Il est dit que Jésus est mort sur cette croix, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'après il est monté vers son Père et il s'est assis sur son trône de gloire et là il règne. Mais avant d'arriver sur ce trône de gloire, eh bien, il y avait un autre trône qui s'appelait la croix. La croix était nécessaire. Il ne faudrait pas que la croix soit une belle histoire, on connaît comme ça. Mais vraiment qu'on se rappelle sur cette croix. Jean-Pierre a été crucifié. Non, c'est pas ça, je me suis trompé dans mes temps. Jean-Pierre aurait dû être crucifié. Mais Jésus l'a tant aimé qu'il a pris sa place. Jean-Pierre ne méritait rien, ce n'était qu'un pauvre pécheur. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Jésus a pris la place de Jean-Pierre et Jean-Pierre s'est rendu compte un jour dans sa vie qu'elle n'avait pas beaucoup de sens, qu'il avait une vie qui n'était vraiment pas à la gloire de Dieu. Et un jour, Jean-Pierre a plié le genou devant Dieu et lui a donné sa vie. Et Dieu l'a transformé. C'est pour ça qu'aujourd'hui il peut prêcher devant vous, pas parce qu'il sait parler, c'est parce qu'un jour Jésus a transformé ma vie. J'aimerais vous dire qu'il y a une parole qui résume tout l'évangile et qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je voudrais juste vous demander maintenant de vous incliner et je vais encore prier. Ah, Seigneur mon Dieu, je veux encore te remercier parce que tu as envoyé Jésus-Christ qui est venu pour nous libérer en prenant notre place sur la croix. Merci parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et je te rends grâce pour cela. Merci qu'il est mort sur cette croix, notre place, mais qu'il est aussi ressuscité, ce qui nous montre par là qu'il a vaincu la mort, le péché et les puissances du mal. Merci pour cet amour inconditionnel que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur que chacun d'entre nous dans cette salle, nous avons de la valeur à tes yeux. Et tu as un projet pour chacun d'entre nous. Merci encore de nous bénir Seigneur. Merci qu'aujourd'hui, nous pouvons proclamer Jésus est ressuscité. Amen.